Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série intitulée « L'évangile du règne de Dieu ». L'évangile du règne de Dieu. Et le titre de notre première étude numéro 1, ce sera l'amour de Dieu. Chers amis, la série d'études que nous allons vous proposer, cette série, elle est surtout élaborée pour des gens qui n'ont pas, par leur métier, souvent bien trop pénible, et très fatigants, ils n'ont pas vraiment le courage de consulter des centaines de citations bibliques. Mais rassurez-vous, tout est strictement biblique. Par contre, si au cours de votre vie, et je vous en supplie, vous avez un moment de répit, je vous demande solennellement de lire l'évangile de Saint Jean. Vous trouverez, très chers amis, à l'écoute des centaines de sujets bibliques sur internet www.bibleexplique.ch. Vraiment des centaines de sujets, les plus intéressants les uns des autres. J'aurais été incapable de faire cette série actuelle il y a 10 ans, et c'est par beaucoup d'épreuves et de souffrances que le Seigneur a permis et m'a aidé à atteindre une certaine maturité. Donc, chers amis, qui donc peut prêcher l'évangile avec quelques espoirs s'il ignore ce que est vraiment l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur? Nous sommes plongés dans d'épaisses ténèbres. C'est à peine si, grâce à nos bribes de culture chrétienne, nous pouvons nous soutenir au-dessus de l'eau. Nous sommes profondément enlisés dans la fange de cette diabolique nature humaine qui a en horreur le Seigneur Jésus. Libre à lui de faire de nous des bienheureux quand nous mourrons. Mais, par contre, sur cette terre, pendant que nous y sommes, que Dieu nous laisse tranquille. Nous y avons nos coutumes, nos lois, qu'on ne peut pas modifier. Et il s'agit pourtant de savoir si l'humanité peut, sur cette terre, avoir Dieu pour aboutissement. Si elle ne le peut, la création tout entière a été faite en vain. C'est pour qu'il n'en soit pas ainsi que Jésus est venu. Et c'est parce que Jésus est venu que nous pouvons dire « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Qu'est-ce donc que l'amour de Dieu? Il consiste en ceci, qu'il a envoyé aux impies que nous sommes son Fils bien-aimé, son Fils incarné. Jésus est la lumière du monde. Il est la paix qui doit régner sur la terre. Par lui, la volonté de Dieu doit se réaliser dans l'individu comme dans l'ensemble. L'amour de Dieu est aussi vaste que le monde. Il est aussi haut et aussi profond que la détresse est haute et profonde et puissante, parfois comme la mort, jusque dans les profondeurs de la terre. Donc le monde est une réalité. Il ne peut être surmonté que par une réalité. La connaissance de Dieu, elle doit être vécue et non pas seulement étudiée. Voyez-vous, quand on a quelques connaissances de Dieu, cela fait mal d'entendre les hommes philosopher sur Dieu. Souvent, on se dit, si vous saviez de qui vous parlez et qui vous disséquez de la sorte, vous deviendrez blême de frayeur. Dieu doit être vécu. Et celui qui fait l'expérience de Dieu se tait. Voyez-vous, nous ne devons pas nous élever au-dessus de Dieu avec notre raison, mais bien nous soumettre à lui avec notre cœur. Ayons donc pitié de nos contemporains qui ont tellement de peine à croire. On a trop exigé d'eux. On les a trop bourrés, peut-être de faits historiques. Ils se creusent à la tête pour savoir s'ils peuvent les admettre et leur cœur ne trouve rien. Débarrassons-nous donc de cet intellectualisme religieux qui rend la foi si difficile. Ce qui soumet le cœur au Dieu saint est beaucoup plus important que tout ce que l'entendement peut saisir. Tout ce qui n'entre pas dans le cœur, laissons-le. Mais ce qui entre dans le cœur et l'esprit et le sanctifie, si bien qu'il s'apaise dans l'obéissance à Dieu, alors gardons-le, ce trésor-là, gardons-le, car le malin ne nous le ravira jamais. Le sens intérieur de l'homme doit donc se rouvrir à Dieu. C'est pourquoi nous demandons dans nos prières une effusion du Saint-Esprit. Les hommes n'ont plus le sens de Dieu, aussi ne peut-on plus rien exiger d'eux que qui heurte en quelque sorte leur idée qui est innée ou qui est apprise. Leur esprit national, par exemple, ou leurs nombreuses coutumes. Ce sens de Dieu, c'est la première bénédiction dont nous ayons à nous emparer. Il y en a bien d'autres, mais il ne faut pas songer tout d'abord à la bénédiction suprême. Si nous avons celle qui vient en premier, c'est-à-dire à savoir la connaissance de Dieu, alors nous progressons de grâce en grâce. Il y a une incrédulité qui provient du respect. Bien des hommes n'arrivent pas à comprendre que Dieu exauce leurs prières. Peut-être y a-t-il là plus de piété qu'à considérer cet exaucement comme allant de soi. Nous, les hommes, nous sommes toujours épris de nous-mêmes, de nos propres pensées et de nos propres voies, et nous mettons Dieu dans nos affaires. Dieu servant nos pensées, Christ marchant dans notre chemin. D'où le conflit terrible dans la chrétienté entre les églises. Et nos pensées humaines ne bougent plus, alors on devient opiniâtre. Il en est ainsi toujours de même, pendant des dizaines et des centaines d'années, tout se répète. Pour finir, eh bien, l'esprit s'ankylose. On ne peut plus penser autrement. L'humanité est figée dans la glace de ses pensées. Mais Dieu reparaît toujours et l'on arrache. Ah oui. Et c'est pour cette raison que le Sauveur est si pressant. Il prie le Sauveur, notre Sauveur. Oui, il prie pour que vienne le jugement qui glorifiera le saint nom de Dieu. Il veut des événements qui culbutent nos idées et nos désirs. Ainsi, de par la volonté de Dieu, le temps laisse en arrière, il laisse en arrière les conceptions qui sont figées des hommes. Il faut donc que les États, que les églises s'écroulent pour faire place aux pensées de Dieu. L'amour de Dieu est la clé. Oui, c'est la clé qui ouvre le monde dans lequel nous vivons. Et notre propre esprit à nous, qui cherchons la vérité dans le monde. Ce n'est pas le monde qui voit Dieu, mais c'est Dieu qui voit le monde. Et quiconque voit Dieu, sait voir dans le monde la vie. Or, la vie est la lumière des hommes. Je répète, la vie, c'est vraiment la lumière des hommes. Ne renversons donc pas les rôles en disant « Jésus est venu pour moi comme mon sauveur ». Par conséquent, il est aussi venu pour le monde, ou l'inverse, Dieu a aimé le monde. Donc, il m'a aimé. Jésus est venu pour le monde, donc aussi pour moi, pour toi. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Bien que le ciel soit très haut, et justement parce qu'il est si haut, il est près de nous. Ce qui est le plus élevé peut devenir le plus proche. La bonté et la grâce divine doivent être très élevés afin d'être hors de notre portée et de faire pénétrer partout leur lumière. Jésus doit dominer pour pouvoir s'approcher de nous. De sa vie terrestre, il a toujours été revêtu de noblesse. Il est l'être supérieur, sublime, et comme tel, il est notre prochain, car il veut s'approcher de tous les hommes pour qu'ils soient un en lui. Du haut de toute chair, dans toute mission, cet appel devrait retentir. Homme, vous êtes à Dieu. Que vous soyez impie ou déjà pieux, sous le jugement ou sous la grâce, sauvé ou condamné, vous êtes à Dieu. Dieu est bon, il veut votre bien. Mort ou vivant, juste ou injuste, malgré tout, vous êtes à Dieu. Dès que vous serez entraîné dans le torrent de la foi, le bien qui est en vous apparaîtra. Notre foi doit être un resplendissement de Dieu. Il faut entraîner le monde dans le courant de la foi Alors, on verra les plus impies devenir des justes. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Si Dieu t'a aimé quand tu étais encore pécheur, s'il t'a plongé dans le courant de la foi et ramené à lui, comment peux-tu encore condamner les autres? Et n'est-ce qu'une question de temps? Les autres y reviendront aussi. Mais si nous mettons des obstacles, d'où viendra le courant qui entraîne le monde? L'homme appartient à Dieu. Voilà l'évangile. Si on le comprend bien, le péché disparaît. Mais il ne faut pas mêler des menaces à l'évangile. On ne peut pas imposer d'obligation aux hommes tant qu'ils ne sont pas venus à Dieu. Personne n'est libre. Voulons-nous être pour ces captifs? Voulons-nous être des vrais annonciateurs de l'Évangile? Alors, il faut que l'Évangile soit une puissance de Dieu, comme il le fut chez l'apôtre Paul, et non un péché ou un ordre. Voyez-vous, l'Évangile est une force et non pas un simple message. Aussi faut-il le garder pur. Associé à des nouvelles menaces, il se gâte. La lumière et les ténèbres s'y mélangent. L'Évangile des apôtres était pur. Tous ceux qui sont venus ensuite y ont ajouté des menaces. La première notion de Dieu consiste à dire « Toi, tu appartiens à Dieu. » Dieu prend en main le droit des hommes. Il ne consent pas à ce qu'un seul d'entre eux ne lui appartienne pas. Pour l'instant, ils sont encore dans l'obscurité, c'est vrai. Mais il faut que tous soient libres. C'est un droit à revendiquer en dépit des hommes. Damner, par exemple, un homme, c'est venir en aide au péché et à la mort. C'est ravir à Dieu un droit qui lui appartient. Au contraire, tu dois confier le pécheur au cœur de Dieu. Sinon, tu n'es pas un simple disciple de Jésus. Il te faut donc voir en lui un être en qui Dieu fera éclater son droit. Et pour toi-même, il faut que tu aies la même assurance. Voilà l'Évangile. Être juste, c'est appartenir à Dieu comme au Père et se tenir pour son enfant. En cela consiste donc la vraie nature de l'homme. L'homme n'est plus injuste s'il ne se considère plus comme appartenant à Dieu. Dès l'instant où il commence à savoir qu'il appartient à Dieu, il retrouve sa vraie nature, il brave le péché, il brave la mort et l'enfer. Un homme qui sait qu'il appartient à Dieu surmontera tout. C'est Dieu qui surmonte tout en lui, parce que Jésus vit, tu es à Dieu. Non pas parce que tu es juif ou chrétien, mais parce que Jésus vit. Le diable n'a pas de droit sur un homme. Dieu seul en a. Maintenant, il est vrai, tu as à souffrir. Mais au milieu de ton enfer, de tes épreuves et jusque dans la mort. Garde la certitude d'appartenir à Dieu. Alors, Dieu fera de toi son fils. Il te mettra dans sa poche comme la drachme. Il te prendra dans ses bras comme la brebis. Il est encore caché, ce grand évangile mondial. Le prince de ce monde a réussi à le voiler, mais il faudra bien qu'il passe encore une fois sur le monde comme une tempête. Dieu veut le bien des hommes. Il est toujours loisible de sentir son action bienfaisante. L'homme est enclin au pessimisme. Certains conducteurs de l'humanité ont entraîné au pessimisme des générations entières. Mais les hommes ont toujours à nouveau besoin de joie. Et Dieu, par ses bienfaits, leur permet de retrouver la joie. C'est pourquoi un chrétien doit s'associer à la joie du prochain. Il ne faut pas se scandaliser de sa gaieté, ni lui interdire tout plaisir. Cherchons plutôt à développer, à ennoblir cette joie, même chez les enfants de ce siècle. Dieu veut le bonheur des hommes. Réjouissons-nous donc si les hommes sont contents. Quand la Bible parle de l'homme, s'il vous plaît, mes chères sœurs à l'écoute, sachez que ça inclut automatiquement la femme. S'il vous plaît, n'ayez pas des amertumes à ce sujet. Dieu ne les a pas créés, les hommes et les femmes, pour souffrir, mais pour lutter. Et tout en luttant, ils devraient se sentir heureux car Dieu leur redit sans cesse « Tu es quand même mon enfant ». S'ils n'ont pas conscience de la bonté divine, les peuples piétinent sur place et tombent en décadence. Mais à travers le christianisme et en dépit de tous les sermons sur la damnation et l'enfer, filtre toujours la conviction que Dieu nous aime. L'évangile est aussi annoncé aux pauvres. Désormais, les pauvres eux-mêmes peuvent se sentir heureux. La bonté de Dieu manifesté en Christ et préfiguré dans le peuple d'Israël en Jéhovah, les païens eux-mêmes étaient soumis à Dieu, mais Israël l'était à Jéhovah. Jéhovah ou Yahvé est celui, selon les diverses versions bibliques, qui participe à la vie des hommes. À l'origine, ce nom ne signifie rien d'autre que l'exclamation « Il est là !» Il est ce qu'il est. « I am, the one I am. » Quand Jacob, couché sur la pierre, vit l'échelle céleste, cela signifie « Il est là !» Et ce fut un très doux bienfait de Dieu. Mais en Christ, Dieu s'est entièrement incarné. En lui, tu peux espérer ce grand bienfait de Dieu qui pénètre jusqu'au fond de la misère humaine. Il n'y a point d'endroit, point de condition où ce bienfait de Dieu ne se réalise. Personne n'a le droit de se tenir pour perdu. Il n'y a pas de verrou que Jésus ne puisse ouvrir. La parole a été faite chair. Quand le pécheur sent cette réalité, elle le sanctifie, elle le sépare du péché. Alors, une nouvelle chair se constitue, unie à Jésus-Christ le Sauveur. C'est pour cela que Jésus s'appelle la résurrection et la vie. Auparavant, ce qui était dans la chair, c'était le principe de mort, c'est-à-dire le principe de mort, le péché. Mais maintenant, c'est le principe de vie, car Jésus vit. L'action bienfaisante de Dieu, elle pénètre la chair et fait mourir le péché. Oui, la parole a été faite chair. Quand ceci vit en toi, tu peux commencer à chanter. Vienne la douleur, tu chantes. Viennent les tribulations, tu chantes. Vienne même la mort, tu chantes. Ne laisse pas ravir ce chant à ton cœur, car tout en toi sera lumière. Chantez si l'obscurité qu'il est là encore, eh bien louez et remerciez, magnifiez, Jésus est vivant et nous aussi, nous vivons. Les hommes sont dans la boue, c'est vrai. Ils n'en sont pas moins des pierres précieuses. Entendez-vous? Voyez-vous, un diamant qui est dans la boue ne peut pas briller. Mais étant par nature noble, il ne risque pas de s'y altérer, jamais. On peut l'en retirer et le nettoyer. Et il ne cesse pas d'être un diamant et de briller. Chers amis, et toi, toi-même, quand tu es dans la boue, ne crois pas pour cela que tu ne vois rien, que tu ne représentes plus rien. Momentanément, tu peux être dans des difficultés, dans la tristesse, dans le désespoir même. Ce que Dieu a créé n'est pas mauvais. Mais nous sommes dans une fausse situation et ce que nous sommes apparaît sous un jour tout à fait faux. La pierre précieuse doit, pour briller, être exposée à la lumière. De même, il nous faut être en rapport avec Dieu pour que notre vraie nature puisse briller. On ne peut pas, au fond, dire à un païen qu'il est un pécheur perdu. On doit d'abord lui faire connaître l'amour de Dieu. Le péché commence lorsque, étant venu à Dieu, nous ne restons pas fidèles. Il y a péché quand la pierre précieuse, une fois nettoyée, qu'elle se jette de nouveau dans la boue. Quand l'homme ne sait encore rien de Dieu, il ne faut pas parler de péché, mais il faut parler de malheur. Une imposture prend beaucoup de force quand je m'y laisse prendre. Le péché ne serait rien s'il ne donnait à l'homme l'illusion complète de le séparer de Dieu. Dès l'âge apostolique, l'antéchrist Satan a essayé de séduire les hommes en disant « Qui n'obéit pas à la loi est un pécheur ». La première épître de Saint Jean combat cette antéchrist quand elle déclare « Croyez au Fils ». Quiconque croit au Fils de Dieu, c'est qui il est. Lui aussi, il sait maintenant qu'il est un enfant de Dieu. Toi aussi, sois en face de ton péché, un enfant de Dieu. Dissipe l'illusion qui prétend te séparer de ton Père. Tu ne peux pas lutter contre le péché tant que le Fils de Dieu ne t'a pas délivré totalement de la crainte. Le péché est en quelque sorte une erreur de jugement. Nous croyons être ailleurs que là où nous sommes en réalité. Si nous sommes en Dieu, nous possédons la vie éternelle. Or, nous vivons comme s'il n'y avait ni Dieu, ni vie éternelle. Nous ne vivons donc pas en harmonie avec ce qui nous entoure, car là est la source de tout péché. Mais si Dieu nous rend sa grâce, eh bien le voile, il disparaît et nous connaîtrons Dieu et la vie éternelle. Cessez donc de se mépriser et de mépriser les hommes. C'est la base de toute vie morale et sociale. Hors de là, point de morale durable. Sur cette base seulement peut s'établir la paix entre les peuples. Les peuples doivent apprendre à s'estimer. De même dans la vie sociale d'un peuple, c'est sur ce respect mutuel que repose toute solidarité. Et voilà pourquoi l'évangile de l'amour de Dieu qui aime ce monde impie et non délivré, ce pauvre monde est à la base même de toute culture et de toute morale. Tu peux donc t'approcher de Jésus parce que Jésus s'approche de toi. À l'amour de Dieu correspond notre foi. Dieu vient au-devant de nous. Notre cœur se remplit d'amour pour Dieu. Dieu vient au-devant de nous comme Père. Ce n'est plus le Dieu élevé, inaccessible, insondable, mais c'est un Père qui nous entoure de toutes parts de sa sollicitude. C'est à la rencontre de ce Père que va notre foi. Elle n'est pas autre chose que la fidélité qui s'attache fermement à l'amour que le Père nous a témoigné comme à ses enfants. La foi, c'est ce qui monte de la terre. L'amour, c'est ce qui descend du ciel sur la terre. Dieu lutte pour que cette foi qui vient de la terre jaillisse en nous comme une source. Ne doutez donc jamais de l'amour de Dieu. Cet amour ne cessera jamais. De plus que Dieu, il n'aura plus de fin. Donc l'amour du Père est vraiment toujours vivant. L'amour ne cessera donc jamais. Christ, il est venu dans le monde pour que toujours soit su et vécu cette réalité-là. À quoi bon prêcher Christ si en même temps nous nous condamnons nous-mêmes? Pourquoi donc Christ est-il venu dans ce monde? Tout homme peut et doit se tenir devant Dieu en disant « Père, je sors de tes mains, oui, de tes mains. Il ne peut donc venir que du bien quand je te demande ton Esprit Saint dans ma prière. Dans ma prière, elle doit être exaucée et elle deviendra donc une réalité. » Tout ce qui prétend s'interposer entre Dieu et nous doit disparaître. L'amour de Dieu vient d'en haut. C'est cette union de la foi et de l'amour de Dieu qui permet à l'homme véritable de se développer. Un tel homme a encore des combats à livrer. Pareille lutte et salutaire. Le mal se trouve alors pris entre notre foi et l'amour divin, donc il est forcé de disparaître. C'est par sa foi que Abraham est devenu un juste. En rejetant délibérément les pensées des hommes, il s'est rangé du côté de Dieu. Il a quitté définitivement la région du péché. La justice ne consiste pas à ne plus commettre de fautes, mais à mettre l'être tout entier en harmonie avec Dieu. Le soleil est juste, qu'il y ait ou non des taches en tout ce qui est créé. Il y a la justice de Dieu. Il n'existe pas dans la création de justice en dehors de Dieu. Voyez-vous, quand nous lisons la parabole du trésor caché, voici notre prière. Père céleste, fais-nous trouver le trésor caché du royaume des cieux. Dans le champ de la vie, en creusant, nous pouvons découvrir le trésor caché. Même aujourd'hui, dans le désordre et dans le trouble universel, tout paraît aller très mal, eh bien nous retrouvons le gouvernement de Dieu. Dieu se trouve dans les afflictions, dans les angoisses, dans les détresses et dans les luttes. Il y a là un trésor. Vends tout ce que tu as et achète le trésor. Et c'est ainsi que le Sauveur a vécu sur la terre. Il ne s'est pas détourné du monde, même pas du monde pervers, même pas de ses ennemis. Et même dans ce qui arrive de fâcheux, il découvre Dieu le Père. Dieu soit donc loué. Le Dieu Tout-Puissant est dans le monde. Et maintenant, je sais pourquoi mon Père m'y a envoyé. Il s'y trouve donc un trésor. Et quand Jésus assiste à une noce, il y trouve le trésor. Quand il va au désert et que les affamés l'entourent, il trouve le trésor. Quand il est en proie à l'angoisse et à la détresse, quand il lutte, il trouve un trésor. Quand sur la croix, il gémit de douleur, quand il descend dans le tombeau et aux enfers, il trouve le trésor. Père, 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 tu es toujours là, merci. Voulons-nous faire de même? Oui. Nous disons à Dieu, permets que nous te trouvions en toutes choses. Nous qui sommes aux côtés du Sauveur, nous devrions baisser la tête, nous devrions désespérer. Eh bien, non et non, que nous soyons affamés ou rassasiés dans les larmes ou dans le rire, nous possédons un trésor pour lequel nous oublions tout. Où est notre Père Céleste? Dans le monde, dans les afflictions, dans les angoisses, dans les détresses et dans les erreurs. Soyons donc sans crainte, le trésor demeure et nous appartenons au Père Céleste. Nous, les hommes, nous sommes entre la lumière et les ténèbres, dans la lumière et la vie, et non pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres se trouve la mort. Dans la vie est le bien, dans la mort le mal. Cette dualité qui nous plonge en une détresse extrême, c'est vraiment l'énigme du monde. Mais heureusement, Dieu est au-dessus de la lumière et des ténèbres. Nous devons tout ramener à lui. Il est l'unique. Ce qui veut régner à côté de lui devient par là même le mal. Il n'y a de ténèbres que en dehors de Dieu. Il n'y en a pas en lui. Dieu est par essence le bien. Dans la création, tout bien procède de lui. Ou si faut-il appeler ténèbres tout ce que on ne peut pas mettre en relation avec lui. C'est par rapport à Dieu qu'il peut être question de ténèbres et de mal. Le mal, lui-même, ne peut pas lui échapper et subsister pour soi. Et donc ceci nous permet de voir le monde entier dans la main de Dieu. Il n'y a pas deux mondes, l'un qui lui soit soumis et l'autre qui lui échappe. Là où il fait tout à fait sombre, eh bien Dieu seul est Seigneur, car le diable n'a pas le champ libre. Par la volonté de Dieu, il est dans les ténèbres. Il a là une sorte d'existence contagieuse, mortelle, pour tous ceux qui s'en laissent infecter. Mais le domaine du péché et de la mort reste tout entier dans la main de Dieu. En Christ, Dieu a aimé le monde, même le monde impie, le monde devenu diabolique. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Des désespérés, des condamnés, des assassins, des misérables pour qui il n'y avait plus de consolation, ils ont pu voir le Père qui les aime. Dans son amour, Dieu étend la main sur les ténèbres. On ne s'écrie plus comme autrefois, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, car Dieu, par son amour, étend la main sur le péché, sur la mort et sur l'enfer. Si donc nous suivons Jésus-Christ sans accepter aucun autre maître, si nous ne mobilisons pas donc tout au diable, mais à Dieu, si nous obéissons uniquement à Dieu, si nous disons « Jésus est vainqueur » et il n'y a pas de puissance des ténèbres qui ne soit obligée de se courber sous l'autorité de notre Seigneur, il faudra bien que les ténèbres reculent. Nous avons à les chasser de notre âme et du monde en ne reconnaissant que Dieu qui est en nous, en tenant à l'évangile de Jésus-Christ qui nous dit que nous sommes à Dieu notre Père. Quand on regarde au monde, il semble que tout ce que réclame Jésus soit impossible. Les hommes veulent tout autre chose que ce que Dieu veut. Ils sont enfermés dans la désobéissance. Ils ne comprennent pas Dieu. Dès lors, il faut bien qu'ils se créent d'autres maîtres. Et c'est ainsi qu'ils en viennent à désobéir à Dieu. Ils se constituent des autorités qui se traduisent dans, on peut dire, des usages et des coutumes. On les suit et ainsi on désobéit à Dieu. En lui désobéissant, on devient évidemment malheureux. Le Chinois qui enterre vivant son fils, la femme hindoue qui jette son enfant dans le Gange, ne trouvent pas le bonheur dans leur désobéissance, car par elle, ils sont des esclaves et non pas des maîtres. Mais leur vient où ils reconnaîtront tous que Dieu seul peut leur venir en aide. Dieu ne peut pas secourir tant qu'on s'imagine trouver ailleurs le bonheur. Il n'y a rien à faire avec un homme obstiné. Il faudrait l'enfermer. Or Dieu n'agit jamais de la sorte. S'il y a des prisons, elles se constituent d'elles-mêmes par la désobéissance des hommes. Or Dieu est prêt à anéantir toute espèce d'enfer si nous le voulons, mais il faut le vouloir. Si nous nous obéissons à ne pas discerner en nous-mêmes le divin, eh bien notre obstination créera sans cesse de nouveaux enfers. Il y a des enfers visibles et des enfers invisibles. Il y a des situations torturantes où nous sommes mis par notre égoïsme et par notre bêtise. Il en sera toujours ainsi tant que nous n'aurons pas de lumière sur la véritable nature de Dieu et sur le chemin qui seul conduit à la vie. Même aux pharisiens, rappelez-vous, Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous. » Pourquoi ? Parce que Jésus ne se laisse séparer de personne, pas même de ses ennemis acharnés. Il les considère comme des gens liés, mais ils discernent en eux le germe du règne de Dieu. Par Jésus, Dieu a déposé un germe dans le genre humain. Ce germe doit se développer dans chaque individu pour que de toutes ensemble sortent le royaume de Dieu et vous et de moi, des juifs et des païens, des croyants et des impies. Et quand viendra le royaume de Dieu, le miracle sera qu'il ne soit pas l'œuvre de quelques grands hommes, mais une réalité vivante surgissant de la multitude. Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit respecté, honoré, sanctifié, que ton règne s'établisse et que ta volonté s'accomplisse sur la terre, comme elle s'accomplit au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais au contraire, délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartienne pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et à demain matin, la suite de cette nouvelle série. Au revoir.